bien sûr. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il y en a beaucoup qui ont été dites avant. Et je remercie Monsieur le Contrôleur de toujours avoir autant un regard attentif à ce que demandent les usagers et les patients. Et j'oserais dire, pour répondre à Monsieur Muller, mais il ne va pas être très content, la dignité de la personne, ça n'est même pas des moyens. Il faut absolument qu'elle soit respectée. Et moi, je vois des endroits où il y a des moyens et où la dignité n'est pas respectée. Mais ça, c'est juste un aparté. Pour revenir à cette loi, il y a plusieurs choses. Alors évidemment, nous, ça faisait 15 ans qu'on réclamait officiellement à U et à DIA l'intervention d'un juge, puisqu'il y avait privation de liberté. Je me rappelle des passes d'armes très importantes, même avec les familles, sur le mot « internement », puisque nous, on prenait le mot « internement », ce qui était accusé à l'époque par l'UNAFAM. C'était très important pour nous, cette intervention du juge, parce qu'on voyait bien dans les pays d'Europe du Nord, notamment, et même en Allemagne surtout, que l'intervention du juge, c'était une privation de liberté. Certes, on était en déraison, certes, il fallait nous soigner, certes, pour cela, il fallait nous protéger de nous-mêmes et protéger la société de nous, mais à partir du moment où il y avait une privation de liberté, en tant que citoyen, on avait le droit à l'intervention du juge. J'estime même que c'est la liberté de tous les citoyens qui est mise en cause s'il y a une catégorie de citoyens qui n'a pas le juge qui intervient quand il y a une privation de liberté. Donc on le voulait. On est très content. 15 jours, c'est trop long, mais on est très content, on ne dit rien. Par contre, il y a plusieurs choses quand même que je voudrais rappeler, notamment au niveau de l'éthique. 40% des patients sont déclarés inaptes au déplacement par les psychiatres. Ça veut dire que 4 patients sur 10 n'ont pas le droit de voir le juge, et ça n'est pas souvent parce qu'ils sont, pas toujours, tout du moins parce qu'ils sont inaptes réellement, qu'on ne les emmène pas devant le juge. La visioconférence, moi je ne veux même pas en entendre parler. Alors ça, c'est, pour moi, c'est exclu, donc voilà, c'est non, point barre. Le déplacement du patient au tribunal. Alors c'est terrible, c'est terrible. Monsieur Allos ici m'a redressé un peu les bretelles parce que lors de la journée de l'ADES, j'ai parlé de bétaillère. J'ai vu, nous avons vu avec une personne de l'UNAFAM, on était 2 représentants des usagers, on a suivi avec notre voiture une bétaillère. Je ne peux pas dire ça autrement. 10 personnes de services différents, avec très peu de soignants, emmenés au tribunal à Paris, pour ne pas le nommer, et reçus vraiment comme des délinquants, avec des questions, mais qu'est-ce qu'on a fait, mais pourquoi on nous sort, on était bien tranquilles au chaud. Enfin, je veux dire vraiment des questions abominables. Il y a aussi une question de sémantique. J'ai vu en France une personne très bien reçue dans l'hôpital, jugée dans l'hôpital, et le juge disant vous pouvez partir parce qu'il était, vous savez, ils sont souvent un peu médicalisés, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Et donc il était là, il se dandinait, il n'avait pas compris que c'était terminé, et le juge lui dit vous pouvez partir, il arrive dans son service, il dit je peux partir. Oui, sauf que pas d'accompagnement, donc le service lui dit non, tu peux pouvais partir de là, mais tu ne pouvais pas partir du service. Ça a fini quand même pour la personne, excusez-moi du peu, en chambre d'isolement, attachée sur le lit. Donc ça, c'est dramatique. Voilà, c'est une question de sémantique. Bon, ça, c'est des choses. Moi, ce que je demanderais, surtout au niveau d'éthique, c'est que le consentement, ou une certaine forme de consentement, et là, je regarde le représentant des psychiatres, soit systématiquement recherché. Nous, on travaille assez avec les usagers, même dans des moments terribles, on sait qu'il y a une certaine forme de consentement, une certaine forme de raison, un tout petit morceau de raisonnable dans l'esprit. Et ça, je voudrais que vous adressiez systématiquement à ce morceau et non pas ce que j'entends la plupart du temps, ce que j'ai entendu hier ou avant-hier à l'École nationale de la magistrature, un jeune homme arrivant très énervé et qui dit « je vais passer à la télé », tout le monde se fout de lui, tu vas passer à la télé, à la fin ça finit assez mal avec des piqûres et tout le reste. Et puis, c'est vrai que 3 jours après, il était réellement passé à la télé parce qu'il avait été filmé. Alors, au lieu de s'asseoir en face de lui, même s'il est énervé, et justement, quand on s'assoit en face de lui, le fait de s'asseoir, de prendre une position basse et de l'écouter, la personne se désénerve, si on peut dire ça comme ça, et on commence à l'écouter, et on aurait peut-être appris, tout simplement, il allait passer réellement à la télé, et que ça ne demandait pas une double dose de neuroleptique pour ça. Voilà. Et puis alors, je voudrais quand même qu'on parle dans cette loi, c'est quand même important, du glissement de l'hospitalisation sans consentement vers les soins sans consentement. Alors, je suis d'accord, le décret d'application pour les soins sans consentement en ambulatoire n'a pas été pris. Donc, on n'est pas encore face au problème. Mais, Je pense qu'il va être retoqué systématiquement, j'en suis même certaine, vu de la manière dont ils nous l'ont présenté, c'est à hurler de rire. Donc voilà, ils vont rentrer à 6h du matin, ils vont attraper la première personne qui est là, et évidemment ça sera peut-être pas la bonne personne, ça arrive souvent. Enfin bon, voilà, ça arrive souvent, enfin tout du moins on le sait. Et puis je voudrais m'adresser à vous, monsieur le bâtonnier, parce que il y a très peu d'avocats qui sont spécialisés. Dans certains endroits, on voit des avocats qui s'occupent des sans-papiers, qui sont très très attentifs à ce qui se passe. C'est vrai que le montant, j'étais au courant du montant qui vous était alloué, ça ne donne la possibilité à un avocat normal que de se déplacer le jour du jugement, ce qui fait que bon ben il sait pas trop, il n'a pas trop d'une enquête faite avant, etc. Il connaît pas la personne qui défend, donc c'est très difficile. Mais j'ai entendu aussi de la part de certains avocats, et nous on en avait parlé dans notre conseil d'administration bien avant, quelle est son intervention, quelle est sa mission. Et par exemple, un avocat qui trouve des documents mal rédigés et qui pourrait demander la libération entre guillemets de la personne, et mais qui voit que cette personne est dans un état et qui entend les soignants expliquer que ben, ça serait quand même dangereux, peut-être pour lui et peut-être pour les autres, de le laisser sortir, quelle est son éthique, quelle est sa décision, doit-il le laisser sortir ou pas? Et puis, avant que vous me répondiez, je finis comme ça, oui. Je n'en reprendrai pas la parole. Je n'ai pas perdu confiance dans la possibilité de décider nos ministres futurs qui vont arriver, et Dieu sait de quelle couleur, mais ça n'a pas d'importance pour nous. De regarder du côté de la Hollande pour la personne de confiance, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que cette personne de confiance connaît bien le milieu, peut servir non pas de médiateur, eux ils disent avocate, pas de médiateur, mais quelque part de traducteur, et qui est appelé systématiquement pour toute hospitalisation sous contrainte, et qui peut servir aussi de lien avec l'avocat. Parce que comme vous l'avez dit, monsieur le contrôleur, nous n'avons pas de personne de confiance, et c'est normal. Parce que si nous nommons en état de raison une personne de confiance, quand nous allons passer en état de déraison, nous allons obligatoirement la réfuter ou trouver quelqu'un de chaton. C'est normal, parce que ne serait-ce que par réaction. Voilà, merci.
Merci Madame Finkelstein, je suis censé présider, je ne suis pas censé répondre à vos questions, mais là je me sens obligé de le faire parce que effectivement c'est quelque chose qui dès le départ, la problématique s'est posée à nous, elle se pose à nous tous les jours, hein, on ne parle pas simplement des patients hospitalisés, lorsqu'on a un moyen de procédure effectivement pour faire sortir le pire des salopards, hein, je suis désolé de le dire comme ça, c'est pas forcément différent. On se pose cette question de savoir si effectivement, qui est notre client? Qui est notre client? Que faisons-nous? Nous sommes des porte-parole. Nous portons la parole du patient. On n'est pas des mercenaires. Notre challenge, c'est pas forcément d'avoir un taux de sortie ou de mainlevée d'hospitalisation d'office supérieur à ceux qu'on obtient dans toute la France. L'intérêt du patient, c'est effectivement pas forcément de sortir. Et là, qui prend la décision? C'est nous ou c'est le juge? C'est nous ou c'est le juge? Juridiquement, quand il y a une personne sous curatelle, qui est notre client? Qui représente la personne sous curatelle? C'est le curateur. Et quand c'est lui qui a demandé l'hospitalisation, est-ce que c'est encore véritablement notre client? Non, c'est le patient. Et on porte cette parole du patient. Et ça nous a torturé, je dois vous le dire, ça nous a torturé pendant des semaines et des semaines, et on a dit, notre rôle, c'est de porter la parole du patient. Quels que soient les moyens de procédure qu'on trouve, on les soulève. Et ensuite, la responsabilité de la main levée, c'est le juge. Voilà comment on a défini notre rôle. On se trompe peut-être. Il y aura peut-être des catastrophes. Ça fera peut-être une nouvelle loi parce que ça fera un nouveau fait divers. Mais notre rôle, c'est ça. C'est de porter cette parole. Parce que justement, ce sont des gens qu'on n'entend plus. Voilà. Monsieur Alos. C'est votre tour, le représentant. Alors on m'a mis sur le programme le représentant du corps administratif.
C'est un corps étranger. Merci aux organisateurs de me donner la parole, et surtout en dernier, comme ça j'ai moins de choses à dire.
On a l'habitude, on a l'habitude.
Même la bétalière, quelqu'un me l'a piqué. Claude, qui effectivement nous parlait tout à l'heure de la bétalière, moi j'avais l'intention d'en reparler, parce qu'effectivement, les transports, c'est quelque chose. Mais ayant tout entendu, je me suis dit, on devrait rêver ce soir. Et si on rêvait que les parlementaires votent une loi, par exemple une loi 803 du 5 juillet 2012, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Une loi géniale, dans lequel qui serait d'ailleurs un titre supplémentaire au Code de la santé publique, et qui commencerait, chapitre 1, définition des soins psychiatriques et de la santé mentale, soins de proximité et ambulatoires, hospitalisation temps plein, une alternative aux autres prises en charge, création du service public de la psychiatrie et de la santé mentale, c'était le premier chapitre. Les droits, deuxième chapitre, droit au logement, droit à la permanence des aidants aidés.